I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Thomas Rozek. Il ne vous aura pas échappé que depuis 18 mois, depuis l'accès au pouvoir d'Emmanuel Macron, conclusion d'une présidentielle riche en surprises, c'est un tout petit peu la panique dans les partis traditionnels. À droite, par exemple, l'on ne sait plus trop vers quel bord tirer. Modération, conservatisme teinté d'humanisme centriste, ou durcissement des lignes et conquête des terrains jusqu'ici laissés aux extrêmes. Avec l'arrivée de Laurent Wauquiez à la tête des Républicains, c'est certainement plus la seconde option qui semble favorisée. Mais jusqu'à quand? Voilà que, secoué par le mouvement des Gilets jaunes et ses attentes sociales, on dit le nouvel homme fort du parti menacé, à moins qu'il n'opère un virage idéologique inattendu. Ce serait d'ailleurs pas le premier, car si on remonte le fil de son parcours intellectuel, les zigzags auxquels il a pu se prêter filent un petit peu le tournis. A tel point qu'on en arrive à se demander, qui êtes-vous, monsieur Wauquiez? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Pour démarrer, il faut remonter à l'émergence politique du personnage. Pour en parler, je n'ai pas eu besoin de chercher un témoin bien loin, puisque j'ai juste eu à tourner la tête d'environ 45 degrés vers le bureau de mon camarade David Carzon, qui est par ailleurs directeur de la rédaction de Binge Audio, qui a suivi de près l'entrée dans le jeu national de Laurent Wauquiez lors de son arrivée à l'Assemblée.
Si on se replace dans le contexte, à l'époque, je travaille au journal 20 minutes. On a un petit souci au journal 20 minutes, c'est qu'on n'arrive pas à voir les politiques, les gros politiques, les ministres, les secrétaires d'État, personne ne veut nous parler. Et donc, on décide de miser sur l'Assemblée nationale et de repérer un peu les jeunes députés de droite et de gauche dont on se dit que ça va être des figures montantes et qu'on va les suivre au plus près de leur carrière et des dossiers qu'ils traitent pour essayer de raccrocher les wagons. Donc, moi, il se trouve que je suivais la droite à ce moment-là, donc à partir de 2003, plus particulièrement à l'Assemblée nationale. Je repère très vite Nathalie Kosciusko-Morizet sur la question d'écologie avec un franc-parler. Elle est très cash, elle raconte la manière dont ses collègues la draguent, enfin, c'est très, très intéressant. Et puis en 2004, déboule un Laurent Wauquiez, qui remplace à l'époque Jacques Barrot, qui lui avait laissé gentiment son siège. Et Laurent Wauquiez arrive et se met très vite sur une thématique qui était qui faisait beaucoup de bruit à l'époque, c'était les questions de droit liées à Internet. Il y avait une loi dans les tuyaux qui s'appelait la loi DADVSI, un acronyme horrible. Et il y a très peu de députés dont on se dit qu'ils arrivent à comprendre en fait ce qu'ils racontent sur toutes les problématiques liées à Internet. Et moi, je suis souvent à l'Assemblée nationale sur des débats qui sont parfois très très tard, et on voit à l'époque c'est des Christian Paul pour la gauche, Martine Billard pour les Verts, et puis Laurent Wauquiez qui est là et qui monte au créneau sur ces questions-là avec un discours pas trop classique pour la droite, en essayant vraiment de comprendre les choses. Donc le personnage m'intéresse, je me dis il arrive à l'Assemblée, il peut faire partie des figures un peu montantes, donc je me mets à suivre son parcours, à le rencontrer régulièrement, à discuter notamment sur des questions d'Internet, et je trouve plutôt intéressant sur ces questions-là. Enfin, je trouve qu'il essaye de comprendre. Et c'est vraiment ça à l'époque, c'est qu'il y avait tellement de députés qui ne comprenaient pas ou qui racontaient n'importe quoi sur cette question et qui ont voté des lois genre Hadopi qu'on subit encore aujourd'hui. Lui, il me semblait sortir du lot. Et c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre ce qu'est devenu le personnage. C'est que ce qu'il est aujourd'hui n'est pas du tout l'image que j'en avais moi quand je le suivais. Un personnage plutôt sympa, accessible, franc, qui essayait... Il disait lui-même que sa stratégie, c'était de parler aux jeunes sur les questions qui l'intéressaient. Donc, Internet était forcément une. On avait l'impression qu'il avait une approche un peu différente de ses collègues. Apparemment, je me suis un peu trompé.
Et il n'y avait aucun indicateur de sa... Non pas de sa... du durcissement de sa ligne, parce que ça s'est intervenu quand même pas mal après, mais... déjà de sa versatilité politique, qui est quand même le trait saillant de sa personnalité publique, en tout cas.
Non, je crois que commencer à me poser des questions au moment où est arrivée la question de l'élection présidentielle, où forcément ça aiguise les appétits et on aurait pu croire que Laurent Wauquiez, héritier d'une tradition droite presque sociale, droite sociale, un peu gaulliste, Seguiniste, Jacques Barrault, serait pas forcément enclin à suivre Nicolas Sarkozy. Et puis, en fait, elle lui a pas posé de problème de se mettre à suivre Nicolas Sarkozy du jour au lendemain et d'épouser toutes les causes que défendait Nicolas Sarkozy, y compris celles contre lesquelles il avait pu lutter jusqu'à présent. Donc, mais il a pas été le seul à faire ce virage-là. Parce qu'à un moment, quand on mise sur un candidat, on mise sur un candidat et puis on met de côté parfois ses opinions personnelles. Elles peuvent continuer de ressortir. Je donnais l'exemple de Nathalie Kosciusko-Morizet. Je pense qu'elle aussi a fait ce virage-là à un moment, mais elle a quand même gardé un certain nombre de convictions. Elle n'a jamais hésité à ouvrir sa gueule et je retrouvais le personnage que j'avais pu voir émerger au début des années 2000. C'est jamais arrivé avec Laurent Wauquiez. Je n'ai jamais revu le personnage que j'avais croisé à l'Assemblée nationale pendant de nombreuses heures entre 2004 et 2007.
Alors que s'est-il passé entre temps? Bien Laurent Wauquiez s'est hissé vers les hautes sphères de la droite au prix d'un certain nombre de reniements personnels et politiques, jusqu'à incarner en 2015 l'un des grands espoirs d'une droite alors persuadée de revenir bientôt aux affaires à la faveur d'une présidentielle qui pourtant, on l'a vu, déjouerait toutes les prévisions. Ça c'est une autre histoire. Pour ce qui est de Laurent Wauquiez, à l'époque, il va faire l'objet d'un portrait dans le journal Le Monde, co-signé par les journalistes Alexandre Lemarié et Ariane Chemin, qui retrace justement toute la sinuosité du personnage. Je suis allé voir Ariane Chemin au Monde pour qu'elle remonte avec nous le fil de cette étrange histoire.
Laurent Wauquiez, je ne suivais pas du tout la droite et donc je ne le connaissais pas plus que ça. Il a commencé à m'intéresser en 2015 quand il est devenu l'homme fort de ce qu'on appelait encore l'UMP. Et il y avait quelque chose qui me troublait dans ce personnage, c'est-à-dire que quand on m'en parlait dans le petit monde politique, il ne ressemblait pas du tout à l'image qu'il en donnait. C'est-à-dire que c'était vraiment le super-héros, l'homme qui est dans les médias, l'homme qui allait seul à la droite, ce type si fort, si brillant, major partout, voilà, normalien, énorme. Et en fait, à droite, commençait à se raconter qu'en fait, il n'était pas vraiment cet homme-là. Et surtout, il avait quand même pris des prises de position qui étaient assez discordantes à droite. On a oublié, parce que maintenant, il porte un gilet jaune, mais que c'était quand même l'homme qui avait parlé du cancer de la Sistana. Ouais. Et du coup, il m'intéressait. Et donc, j'ai voulu me lancer dans une enquête pour savoir qui était vraiment Laurent Wauquiez.
Et vous avez trouvé quoi, alors?
J'ai trouvé d'abord, il faut le dire, un menteur. Quelqu'un qui racontait qu'il était le meilleur ami de Sœur Emmanuelle alors qu'il l'avait vaguement croisé quand il faisait un stage en Égypte et qu'il avait organisé une photo exprès pour donner cette image d'homme proche d'une religieuse s'occupant des autres. Alors qu'elle
était... Il l'avait organisé à l'époque, une photo ?
Il était ministre, il avait organisé la photo, il était allé dans la maison de retraite où elle se trouvait, il avait demandé à quelqu'un de son cabinet de prendre la photo. Et sur la photo, on voit bien d'ailleurs que Sœur Emmanuelle, elle est intubée, elle va très mal. Il l'a utilisée. Hein. Et il n'a cessé de dire que ce n'était pas vrai. Et on a vu après, par multiples contre-enquêtes, que c'était le cas. Donc il nous a raconté d'abord qu'il était l'ami de Sœur Emmanuelle, ce qui n'est pas vrai. Ensuite, il a raconté qu'il était un enfant du Chambon-sur-Lignon, alors qu'il a grandi rue Vanneau.
Rue Vanneau à Paris, je précise.
Rue Vanneau à Paris, avec vue sur les ministères. Hein, voilà, il avait un condisciple à Sciences Po qui avait très très bien raconté ça dans un article parce qu'il venait de publier un livre et Laurent Wauquiez l'avait invité. Il racontait Laurent Wauquiez très à l'aise sous les hauts plafonds de son appartement. Il a le droit, mais à ce moment-là, il ne dit pas qu'il est le petit garçon du Chambon.
Le condisciple dont parle Ariane Chemin, c'est Nicolas Jones-Gorlin, qui est romancier et qui avait signé en 2010 un article dans Les Inrecuptibles baptisé In Bed with Laurent Wauquiez, dans lequel, au sujet justement de cet appartement et de cette aisance financière, il écrivait Laurent parlait avec la désinvolture d'un Bruce Wayne, comme si ce luxe n'existait pas.
Et puis le troisième gros mensonge, mais qui est arrivé après, c'est évidemment quand il a dit « je n'ai jamais porté le gilet jaune », alors qu'on l'a vu au Puy-en-Velay. Voilà, c'est la troisième fois qu'il ment vraiment. Et il racontait, en fait, à l'époque, je ne l'ai pas compris. Je me suis dit, c'est incroyable, un homme qui ment comme ça, il a peur de rien. Et en fait, il annonçait quelque chose, mais on n'avait pas mis un nom dessus. Il annonçait à la fois l'ère des fake news et il annonçait le Trumpiste. Mmh. C'était une sorte de petit Trump à la française qui n'a pas peur de mentir et qui n'a pas peur de provoquer. Il incarnait en fait cette espèce de droite décomplexée comme on l'appelait en 2015 et en 2016 et qui raconte aussi très très bien l'évolution de la droite française.
L'évolution vers quoi justement? Vers une droite plus dure et qui peut s'affranchir de la réalité, on va dire?
En fait, c'est l'époque où la droite a commencé à dire on en a marre des tabous. Ça vient de Sarkozy, évidemment. Hein, c'est une rhétorique sarkozyste. Assez des tabous, il faut dire les choses comme elles sont. Et ça a été un vrai virage à droite. C'est la droite identitaire aujourd'hui, hein, qui est bien plus forte que la droite sociale. Et ça, il a incarné ça de manière incroyable, au point qu'il est devenu le patron des Républicains, c'est-à-dire de la droite républicaine. Et souvent, on ne voit guère de différence entre ce que peut dire l'extrême droite et ce que peut dire Laurent Wauquiez. Donc, il a raconté, ça fait, je dirais, 6 ou 7 ans que la droite française et la France en général glissent à droite, parce que tous les partis glissent à droite et il incarne ça.
Il incarne aussi, je parlais de tordre la réalité, il incarne la faculté qu'ont les hommes politiques à se maintenir et voire à évoluer vers de plus hautes fonctions, malgré des mensonges répétés, malgré des mensonges pointés du doigt par la presse, des mensonges qui sont finalement connus de tous, mais qui n'ont quasiment aucune incidence.
Oui, et je me souviens très très bien que 3 ou 4 mois après ce portrait, je me souviens de Renaud Dely qui m'avait dit « Mais comment t'expliques que votre portrait, il a pas fait plus de bruit ?» Et je ne savais pas lui répondre. Et aujourd'hui, je dirais qu'en fait, c'est ça le Trumpisme, c'est-à-dire on ment et ça plaît. C'est ça que raconte l'histoire de Laurent Wauquiez.
Qu'est-ce qu'on peut dire de cette volonté ? Vous parliez dans ce portrait de psychanalyse, en disant que les hommes politiques n'aimaient pas beaucoup la psychanalyse et que souvent leurs actes parlaient quand même beaucoup pour eux. Cette volonté de masquer à tout prix qui on est. Car finalement, c'est un peu ce que fait Laurent Wauquiez. Notamment, vous mentionnez le fait qu'il soit énarque, normalien, qu'il ait donc ce bagage culturel, académique, intellectuel énorme et qui, pourtant, qu'il déploie toute son énergie, on a l'impression, pour se faire passer pour un homme du peuple qui a une vision assez franche, concrète, des choses, pas du tout un intellectuel. Et vous disiez dans le portrait qu'il avait peur de passer pour une grosse tête.
Oui, c'est le patron d'Ariane Espace, Stéphane Israël, qui avait été dans sa promo de l'ENA, qui disait que c'était son obsession, pas une grosse tête. En fait, il ressemble un peu, je me souviens de Laurent Fabius qui faisait exprès de faire des fautes de français quand il parlait. Il a un petit peu ça. Et je me souviens d'avoir parlé avec son prof d'histoire à l'époque, Jean-Pierre Hugh, qui raconte d'ailleurs une chose intéressante. C'est qu'il a voulu à la fois se faire passer pour l'homme du peuple, et c'est très étudié. Je me souviens qu'au Puy-en-Velay, j'avais passé une semaine là-bas, tout le monde me dit regardez, il a toujours des chaussures crottées, donc il fait attention même à ça. Hein, il a pas une montre blanche. Bling-bling comme Sarkozy, il a une Swatch qui coûte pas cher, etc. Mais il y a autre chose. Il y a un autre trouble d'identité pour moi chez Laurent Wauquiez, c'est qu'il y a même une identité sur est-ce que je suis l'enfant du Puy-en-Velay ou est-ce que je suis l'enfant de la bourgeoisie du Nord. Ouais. Quand il était en Cagne, il avait accolé à son nom le nom de sa mère, Motte. Hein, ses parents sont divorcés. Et il racontait à ses profs, et notamment à Jean-Pierre Rioux, qui est un historien très solide et qui, à l'époque, adorait Laurent Wauquiez, qui aujourd'hui ne l'entend, ne le comprend plus, ne le voit plus. Il racontait toute l'histoire de son ascendance industrieuse du nord de la France, la grosse bourgeoisie. Voilà. Et tout d'un coup, il est redevenu l'enfant du puits. Donc, il y a vraiment un trouble d'identité chez lui. On ne sait pas s'il est le fils de son père, le fils de sa mère, du puits, du nord, de la droite sociale comme à ses débuts en politique ou de la droite identitaire comme aujourd'hui. On n'arrive pas à savoir qui est Laurent Wauquiez.
Et justement, est-ce que l'une des clés de compréhension, c'est que sa colonne vertébrale politique n'a pas vraiment d'existence. C'est quelqu'un qui peut, comme ça, modeler à la fois son identité et son identité politique.
Oui, on a du mal à savoir qui est Laurent Wauquiez. Est-ce que c'est l'homme des débuts, celui qui était profondément européen, par exemple, il a quand changé complètement de discours sur l'Europe, celui qui, du temps où il était soi-disant, c'était anti-chef, sœur Emmanuel, aurait été sans doute pro-migrant. Hein. D'ailleurs, quelqu'un lui a posé la question sur Europe 1 en lui disant « Mais sœur Emmanuel, que vous aimez tant, vous ne croyez pas qu'elle aurait été pour l'accueil des migrants ?» Et il dit « C'est honteux d'utiliser quelqu'un, mais il a fait ça toute sa vie. » Donc, oui, c'est vrai qu'on ne sait plus lequel est le vrai. Est-ce que c'est celui d'aujourd'hui, celui d'hier, enfin aujourd'hui, en tout cas, il sait se fondre dans l'époque, à l'avance, je dirais, comme personne.
Mais ça s'est fait aussi au prix de quelques fâcheries politiques. Et on sait qu'au bout d'un moment, ça peut se cristalliser et signer aussi la fin d'une carrière. La droite française, l'histoire de la droite française est parsemée de parcours de ce style.
Bien sûr. Alors, il s'est brouillé, évidemment, avec celui qui était son mentor, Jacques Barrot, qui l'a fait pleurer, qui ne reconnaissait plus le politique qu'il avait fabriqué, d'une certaine manière. Il s'est éloigné de certaines figures de la droite. Donc, que deviendra Laurent Wauquiez, je n'en sais rien. Mais c'est vrai que C'est vrai qu'il devient fragile. On voit bien d'ailleurs qu'il a du mal à choisir une tête de liste pour les européennes. Il n'arrive pas à mettre les... Pour les municipales, il sème la zizanie à chaque réunion. Donc, effectivement, il... À la fois, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas vraiment de consensus autour de lui, mais c'est un homme qui fait peur. Ça m'avait frappé quand j'avais été au Puy-en-Velay. Et il avait copié ça sur Nicolas Sarkozy, ses manières de voyou. C'est la première fois qu'on voyait des politiques utiliser les manières des voyous, hurler, menacer. C'est quelqu'un qui menace vraiment Laurent Wauquiez.
Mais vous disiez justement dans le portrait que ça aussi, ça faisait partie un peu de l'histoire de la droite, qu'il était en ce sens aussi une incarnation de ce que la droite a toujours compté dans ses rangs, des bad boys, quelque part.
Oui, on disait les salauds de la droite à l'époque de Michel Noir, des gens comme ça. C'est vrai qu'il y a toujours une tradition du vilain petit canard et on s'en accommodait, mais en général, ils n'ont pas très bien fini.
Et ils ont rarement atteint, on va dire, la présidence du parti. Ils ont toujours été plutôt des hommes de main.
Oui, sauf que la différence, c'est que l'époque a changé et que l'époque aime les Trump.
Si on a du mal à savoir qui est concrètement Laurent Wauquiez, ses options politiques de plus en plus dures se sont très nettement précisées ces dernières années, au point de faire fuir une partie de ses soutiens qui désormais alertent sur sa potentielle dangerosité. Le dangereux, c'est d'ailleurs le nom du livre que lui a consacré Philippe Langenieux-Villard, qui est maire de la ville d'Alvar en Isère. Il est par ailleurs élu au conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes que préside Laurent Wauquiez. Il l'a soutenu, accompagné, avant de s'en désolidariser totalement, au point de quitter le parti Les Républicains. Je lui ai passé un petit coup de fil pour comprendre sa décision et sa vision désormais du personnage.
Il conduit en réalité la droite dans un mur parce que soit il essaye de récupérer les électeurs du Front National et il y parvient, et dans cette hypothèse il perd l'ensemble du corps très puissant de la droite modérée, soit il ne parvient pas à récupérer les électeurs du Front National. Et il a de toute façon perdu les électeurs du centre et de la droite modérée. Donc je pense qu'il est dans un schéma d'impasse. Pour moi, sa stratégie, si c'est une stratégie, à moins que ce soit ses convictions, à mon avis, cette stratégie est une stratégie vouée nécessairement à l'échec.
Vous l'avez vous-même dit, on a du mal à savoir ce qui est de chez lui du ressort de la stratégie et du ressort de la conviction.
C'est un des problèmes du personnage, car au fond, si j'avais à qualifier sa nature, je dirais qu'il donne l'impression d'être particulièrement insincère. Au fond, de changer de conviction en fonction des temps. Alors, je mets toujours un moderato à tout ça parce que le président de la région en tant que tel, dont je suis élu, j'ai voté ses budgets et je trouve qu'il a sa stratégie de gestion d'une collectivité locale me paraît, dans l'ensemble, enfin après il y a toujours des points de désaccord, mais enfin on ne peut pas non plus s'arrêter à chaque point de désaccord, me paraît assez bonne. C'est là où j'ai un souci, c'est que je pense que le personnage gère assez bien les collectivités dont il a eu la charge jusqu'ici, mais qu'en revanche il est incapable d'avoir un destin national. Et donc c'est en ça qu'il est dangereux, parce que il a à la fois toutes les armes de l'intelligence, il a toutes les armes de la jeunesse, il a et en même temps je pense qu'il fait totalement fausse route.
Vous qui avez travaillé avec lui, quel a été le point de rupture pour vous vis-à-vis justement de sa stratégie politique?
Alors moi, le point de rupture, il est un peu, comment dire, epsilonnaire, puisque, enfin epsilonnaire, il est à la fois fondamental, c'était la décision qu'il avait prise à propos du mémorial d'Izieux, de diminuer la subvention que la région versait à cette institution qui commémore la rafle des qui défend la mémoire
des enfants d'Izieux.
Voilà, des enfants d'Izieux. Et alors bon, il a ensuite trouvé une solution, parce que l'homme est évidemment intelligent, mais en tout cas l'intention était celle-là. Et là, je me suis mis en veille en me disant que j'appartenais à une majorité qui défendait pas les mêmes valeurs que celles auxquelles j'étais attaché. Le mémorial d'Izieux, il a été conçu dans un rapport de confiance entre François Mitterrand, à l'époque président de la République, et Charles Millon, à l'époque président de la région. Voilà, c'est quelque chose de très consensuel. Et voilà, s'attaquer à ce symbole-là me paraissait, en début de mandature régionale, un très mauvais signal.
Est-ce que selon vous, cette position qu'il a, cette versatilité qu'il a et qui se voit de plus en plus, elle est tenable sur le long terme ?
Non, Non. J'observe que au fur et à mesure que les mois passent, moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'il perd progressivement ses soutiens, sans parvenir à engranger, je parle en tout cas de la classe politique de droite, sans parvenir à engranger des ralliements. Je pense qu'aujourd'hui, il est le patron d'une île de plus en plus petite.
Alors l'île de Laurent Wauquiez tiendra-t-elle la marée lors des prochaines échéances électorales ? Les européennes en 2019 seront-elles la vague de trop ? Ou bien sa remarquable capacité à survivre à tout, même à ses propres incohérences, lui permettra-t-elle de tenir encore et toujours ? Mystère, sachant que dans l'ombre, un certain Nicolas Sarkozy, jamais avare de critiques sur l'actuel patron de la droite, laisse monter la rumeur d'un possible énième retour. La vieille tradition des coups fourrés à droite, pour sa part, semble encore avoir de beaux jours devant elle. Merci à David Carzon, Ariane Chemin et Philippe Langeneux-Villard pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B à binge.audio pour nous écrire et à demain pour un nouvel épisode. Binge.